Bonsoir. Je voudrais vous faire une lecture dans la Bible, dans l'épître de Jacques au chapitre 1, versets 5 à 8. Je vais faire la lecture dans la Bible traduite par David Martin. Vous trouvez le texte intégral de 1744 dans toutes les bonnes librairies chrétiennes. Jacques chapitre 1, verset 5. Si quelqu'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui la donne à tous libéralement et qui ne la reproche point. Elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, ne doutant nullement, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité du vent et jeté çà et là. Or qu'un tel homme ne s'attende point de recevoir aucune chose du Seigneur. L'homme double de cœur est inconstant dans toutes ses voies. Mon espoir ce soir, c'est que nous tous nous ressentions l'amour et la lumière qui vient de Dieu. Beaucoup de personnes qui écoutent ce message, ici, au château ou sur Internet, beaucoup ressentent le besoin pressant de recevoir la bénédiction de la révélation personnelle. Si vous êtes un responsable dans l'évangélisation, c'est peut-être de recevoir comment aider un disciple de Jésus qui veut être un témoin, mais qui se trouve dans des difficultés. Si vous êtes un papa ou une maman, et si vous êtes dans un pays où il y a la persécution, eh bien, ce sera le besoin désespéré de savoir si vous devez partir avec votre famille pour rechercher la sécurité ou si vous devez rester là où vous êtes. Il y a des centaines de pasteurs d'églises locales qui prient pour savoir comment aider dans l'œuvre du Seigneur et comment savoir secourir les brebis perdues, celles qui se sont égarées. Et pour un prophète, c'est de savoir ce que le Seigneur veut qu'il dise à l'Église et à ce monde qui est en pleine tourmente. Alors nous savons tous que le jugement de l'homme et son raisonnement logique ne suffisent pas à répondre aux questions qui importent le plus dans la vie. On a besoin de la révélation de Dieu. Et nous n'avons pas seulement besoin d'une révélation en temps de tension, mais nous avons besoin d'un flot de révélations continues, d'un flot de révélations constamment renouvelées. Nous n'avons pas besoin seulement d'un éclair de lumière ou de réconfort, mais nous avons besoin de la bénédiction permanente de la communion, de la communication avec Dieu. Alors je regardais en arrière ces derniers jours et je voyais que l'existence même de notre communauté est due à mon besoin de solution. À l'époque, je cherchais quelle était la vérité au sujet de l'Église. J'avais travaillé pendant 7 ans avec Bill William à Paris dans le cadre de Teen Challenge, et comme les portes de Teen Challenge s'étaient fermées, j'étais un peu désemparé, je ne savais pas. Je voyais des modèles autour de moi, des modèles communautaires, des modèles d'église classiques, mais il n'y en avait aucun qui me satisfaisait. Et je priais pour que Dieu me révèle quelque chose. Et Michou priait avec moi, on était tous les deux. Et nous sommes arrivés, au bout de 3 ans, parce que ceux qui connaissent mon livre Oracle, vous savez que j'ai eu la visite d'un ange qui me disait que ça durerait 3 ans, hein. Il y aurait un temps assez long jusqu'à ce que finalement, au bout de 3 ans, eh bien, la bénédiction me soit révélée. Et en fait, au bout de 3 ans, comme l'ange l'avait dit, dans le bureau de frère Osborne, cette révélation est venue. Et c'est cet homme de Dieu qui m'a ouvert les yeux sur ma vie, c'est-à-dire sur ce que je suis. Nous sommes faits pour quelque chose. Tout, nous avons tous été faits, tout a été fait dans un but, nous dit la Bible. Il m'a dit, Osborne m'a dit, « Qu'est-ce que vous avez dans les mains ?» Faites une liste. Voyez ce que vous pouvez déjà faire avec ce que vous avez dans les mains. Alors, je me rappelle, le soir en rentrant dans la petite maison qu'il nous avait prêtée avec ma femme, on avait tous fait notre liste avec d'autres amis qui étaient là, Bruno et Thérèse Ouvet. Et alors, j'avais écrit « J'ai déjà une femme merveilleuse. » Et puis j'ai des amis merveilleux, j'ai des frères et sœurs formidables. Et puis j'ai une maison au Perreux, au 44 rue Victor Ecoura. Et puis voilà, j'avais fait une liste de choses que j'avais. Et puis le lendemain, frère Osborne m'a dit, bon, maintenant vous allez écrire. Vous allez mettre comme titre un homme, une vision. Et vous allez écrire votre vision. En commençant ce que vous pouvez faire avec ce que vous avez. Et alors, chaque jour, j'écrivais un chapitre. Et au bout de 21 jours, je savais. Je savais. Dieu a parlé à mon esprit. Et 10 ans après, nous avions absolument tout ce que j'avais vu dans cette vision. Et même plus. Et aujourd'hui, je sais ce que je dois faire parce que la révélation continue. Vous voyez, en 1979, je savais que je ne pouvais pas savoir par moi-même à quelle église je devais me joindre. Je savais que je manquais donc de sagesse. J'ai demandé à Dieu, je me suis adressé à lui. Et puis, je me suis adressé à son prophète, à son... Frère Osborne n'a jamais dit qu'il était prophète, mais c'était un porte-parole de Dieu. Et l'homme que Dieu a mis sur ma route, le frère Osborne, j'ai écouté. Ce qu'il m'a dit. J'ai écouté ce porte-parole qui est confirmé par des miracles extraordinaires. J'ai écouté ce prophète et j'ai cru dans son conseil et j'ai cru que c'était cela, la sagesse de Dieu. C'était la sagesse qui me manquait, celle dont Jacques parle, celle qu'on vient de lire, là, dans Jacques chapitre 1, verset 5-8. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la lui donnera sans lui faire de reproche, mais qu'il la demande avec foi, ne doutant nullement. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent, et jeté là, ça et là. Or, qu'un tel homme ne s'attende pas de recevoir aucune chose de Dieu, l'homme double de cœur est inconstant dans toutes ses voies. Je manquais de sagesse, ça je savais. Je ne savais pas où je devais m'engager, ça je savais que je ne savais pas où m'engager, dans quelle église je devais m'engager, dans quelle communauté je devais m'engager. Il y avait des gens qui m'attiraient, qui me disaient « Allez, viens avec nous, là, là, là. » Alors j'ai prié, et je n'ai pas douté, pendant que je priais, je n'ai pas douté que Dieu allait me répondre. Et Dieu m'a dirigé vers son serviteur, donc T.L. Osborne, et quand il m'a parlé, là aussi je n'ai pas douté. J'ai cru ce qu'il m'a dit, j'ai cru que c'était la réponse que j'avais demandé à Dieu. Et je l'ai fait, j'ai fait ce qu'il m'a dit. Je me suis joint à aucune église, et Michou et moi, nous avons créé la communauté officiellement. Bon, nous vivions déjà plus ou moins en communauté. Lorsque nous avons quitté Teen Challenge, nous étions 3-4 couples. Nous avons tous déménagé au même endroit et on mangeait tous les soirs ensemble, on priait ensemble, mais on rentrait chacun chez soi. C'était un début, un embryon de vie communautaire. On avait déjà ce désir. Mais là, nous avons décidé, nous allons la créer officiellement. Et puis alors, on l'a dit à tout le monde. À l'époque, j'avais un local à Paris qui s'appelait, on l'avait appelé La Grange. D'ailleurs, ça faisait partie de la vision que j'avais écrite là-bas chez Osborne. Et dans ce local, eh bien, quand j'ai parlé de ça, on allait créer officiellement la communauté, j'ai vidé l'église. C'était terminé. Le résultat, on a fait le vide. Le vide autour de nous. Alors, premièrement, mes collaborateurs. Tous mes chers amis, ces couples qui étaient avec nous, tout ça. Non, 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 à ce point-là, non, monsieur. Non, non. Et puis, les membres de notre petite église nous ont quittés. Mais rapidement, hein, ça n'a pas traîné. Et on s'est retrouvés juste avec Isabelle Lemot, et Dominique Boisset, voilà, Michou et moi, et puis voilà, on était 4. Mais on n'a pas douté, ça nous a un peu ébranlés, mais on n'a pas douté. J'avais une vision, j'avais une révélation. Alors c'était ça. J'avais écrit ce petit bouquin qui s'appelle « Un homme, une vision ». Et je me tenais à ça. Et alors on a continué de prier, et Edith est arrivée, Edith Ruiz. Et puis Alain Mesme, Catherine, qui était sa fiancée à l'époque, et puis Philippe Navez, et puis Marie-Claire Lemot, qui était la sœur d'Isabelle Lemot. Où est-ce qu'ils sont arrivés? Eh bien, ils sont arrivés dans la matérialisation de ma vision, dans la grange au 178 rue Legendre. Dieu les a poussés là, parce qu'il avait une raison. Il m'avait donné une vision, et maintenant j'avais besoin d'hommes et de femmes avec moi pour accomplir, pour faire ça, cette vision. Cette vision, dans ce local, on l'appelait la grange, comme je vous l'ai dit, ça se trouvait... cette vision-là, elle se trouve dans la page numéro 3 de la brochure « Un homme, une vision ». Alors, ses frères et sœurs sont rentrés dans ma vision et ils sont encore là, 34, 35 ans après, ils sont encore là. Et nous avions des semences à semer dans la grange, parce que j'avais dit la grange, c'est un endroit où on met des semences pour ensuite aller les semer partout. Voilà, c'était ma vision. L'évangélisation, il y avait des... Alors, c'était tout des semences, il y avait la Bible, et puis il y avait tous les bouquins d'Osborne qu'on distribuait. Et puis maintenant, il s'est rajouté mes propres bouquins, ceux que j'ai écrits, des vidéos, un site internet, toutes les missions qu'on fait chaque année partout en Afrique. Tout ça, c'est à la page 3 de la brochure. Un homme, une vision. Et puis, on a acheté le château. Et ça fera à Pâques, ça fera 25 ans. Ben, de ce château, j'en parlais en 1979, également à la page 3 déjà. Je m'étais même pris en photo, alors avec un château, mais j'avais pris un château avec des mâchicoulis, des donjons et tout, mais c'était où je voulais. Ma vision, c'était un château. Et j'appelais ce château l'ambassade du ciel, parce que c'était de là qu'on était formé pour aller ensuite évangéliser. J'avais mis donc cette photo de château. C'est la vision. Et la vision continue. Vous savez, il y a toujours eu un homme avec une vision. Pas 36 bonhommes, un homme avec une vision. Regardez, en Israël, il y avait toujours un Ésaïe, un Ézéchiel, un Amos, un Adias, un. Et puis vous prenez ensuite l'histoire de l'Église, il y a un pour chaque âge, un dans chaque église locale, un ange pour chaque église, un envoyé pour chaque église, Apocalypse 2, 3. Avec une vision. Et Dieu s'adresse à cet envoyé, cet ange, écrit à l'ange de Éphèse, de Smyrne, etc., etc. Et les églises locales se créent sur la vision d'un envoyé de Dieu qui s'entoure d'hommes et de femmes qui le seconde, qui aide cet homme qui a cette vision, qui l'aide à dépasser ses capacités de visionnaire. Chaque personne apporte son bien, ses talents, ses capacités, sa force et toutes ces choses en les mettant au service de la vision. C'est ainsi que la révélation de Dieu continue. Mes frères et sœurs, la révélation continue dans la communauté et voilà comment elle se définit. L'envoyé de Dieu la reçoit pour l'Église. Les divers responsables de l'Église reçoivent la révélation pour leurs diverses responsabilités. Je ne vais pas me mêler de comment on doit faire l'évangélisation, je vais donner des conseils. Bien sûr, le prophète, le serviteur de Dieu, l'envoyé de Dieu est toujours là pour donner des conseils, mais... Comme ce n'est pas, c'est aux responsables maintenant, n'est-ce pas, de se soumettre et de faire, et puis ils reçoivent leur propre révélation. Ils reçoivent d'abord la confirmation de la révélation que je leur donne, et ensuite ils vont faire ce que Dieu leur révèle. Et puis ensuite, donc, ça commence par l'envoyé de Dieu reçoit la révélation pour l'Église, les divers responsables de l'Église pour leurs responsabilités diverses, et ensuite le Père pour sa famille, et puis l'individu pour lui-même. On ne peut pas avoir un individu qui a une révélation contraire à ce qui est donné par le serviteur de Dieu. C'est comme si vous aviez un groupe de baptistes dans une église pentecôtiste où ils seraient gênés au bout d'un moment avec la louange, le parler en langue, ils diraient, les baptistes diraient, oh là là, mais ça c'est démoniaque, c'est pas de Dieu, ça va pas. C'est pas possible. Vous avez des pentecôtistes dans une église luthérienne, chaque fois qu'ils voient un baptême d'enfant, ils vont dire, attends, c'est pas biblique, c'est pas juste, c'est pas... Vous voyez, donc on doit avoir la vision de l'envoyé local, de celui que Dieu a mis là, dans l'église locale. Et puis, on marche dans cette vision. Mes frères et sœurs, ce plan merveilleux de la révélation commence, finit, continue lorsque nous recevons la révélation personnelle. On peut prendre l'exemple, un exemple parfait, on trouve dans Matthieu, chapitre 21, Matthieu 21, versets 28 à 30. C'est Jésus qui parle et qui dit « Mais que vous semble-t-il ? Un homme avait deux fils et, venant au premier, lui dit « Mon fils, va-t'en et travaille aujourd'hui dans ma vigne. » Lequel, répondant, dit « Je ne veux point y aller, mais après s'être repenti, il y alla. » Et puis, il vint l'autre et il dit la même chose. Alors, celui-ci répondit « Eh ben, j'y vais, Seigneur, mais il n'y alla pas. » Alors, les deux exemples. Jésus dit, maintenant, lequel a fait la volonté ? Ben, c'est celui qui a dit non au départ, hein, qui n'était pas du tout d'accord avec l'autorité de son père, mais qui finalement s'est repenti et l'a fait. Et puis, vous avez l'autre qui dit, ben oui, je vais y aller, il est tout léger, n'est-ce pas ? Puis finalement, on n'y va pas. L'exemple parfait, ça serait autre chose. Ça serait celui-là. Un homme avait un fils, il l'envoie travailler dans sa vigne, il lui dit, va travailler dans ma vigne, et le fils répondit, oui, mon père, et il y va. Ça serait parfait. Ça serait parfait. Cette sorte de relation entre le père et le fils me plaît beaucoup. Elle est bonne. Elle me fait penser à la relation que Sarah avait avec son mari Abraham. Elle l'appelait Seigneur, c'est-à-dire elle reconnaissait son autorité de mari. Quand un papa demande quelque chose à son fils, il n'y a rien qui peut rendre le papa plus heureux que de voir son fils qui respecte l'ordre établi et qui se soumet de cœur à ce que son père dit. Et les prophètes sont réjouis quand les membres du corps de Christ marchent de cœur, d'un seul cœur, d'une seule âme avec eux, dans leur vision, reconnaissant donc qu'ils sont envoyés de Dieu. Vous savez, un enfant qui obéit de cœur réjouit son père. On trouve ça dans la Bible. Mais pourquoi obéit-il de cœur ? Parce qu'il a en lui à cœur de croire que ce que demande son papa est juste. Très souvent, les enfants ne comprennent pas pourquoi on leur dit « Bon, maintenant, tu éteins ton ordinateur et tu dors. » On ne comprend pas toujours pourquoi l'autorité dit de faire ceci ou de faire cela. Le gamin va pas dire « Ah ben papa, écoute, je vais aller prier pendant 2 heures pour savoir si ce que tu me dis, ça vient de Dieu ou pas. » Un enfant soumis à ses parents, il ne pense pas « Ok, j'irai et je ferai ce que mon père me demande de faire. » Non, non, un enfant agira comme si c'était le Seigneur qui l'avait demandé. Quand on obéit de cœur, il reconnaît l'ordre établi par Dieu. Et quand il agit, c'est pas par obéissance à l'homme, c'est pas par obéissance à son père, mais par obéissance à Dieu qui a établi cette chose. Si on lit 1 Corinthiens 11:3, il est dit, comment c'est dans la famille 1 Corinthiens 11:3, c'est dit, mais je veux que vous sachiez que le chef de tout homme, c'est Christ, et que le chef de la femme, c'est l'homme. Ah, alors s'il est le chef de la femme, à plus forte raison, il est le chef des enfants. Et on obéit, voilà. Alors, pour vous assurer que c'est le père qui a l'autorité dans la famille, et que ça n'est pas discutable, lisez ce texte. Ça n'est pas discutable ni par sa femme, ni par ses enfants. Lisez ce texte. Et puis, il y a aussi un ordre dans l'Église de Jésus-Christ, c'est le même. Et cela afin que l'Église soit un seul cœur, une seule âme. Et l'obéissance de cœur vient d'une révélation personnelle. C'est mon papa, alors j'obéis. C'est mon pasteur, alors je fais. Je ne comprends pas tout, mais je fais. De nombreux parents ont fixé des règles familiales, comme je vous disais tout à l'heure, par exemple, à quelle heure les enfants ou les ados doivent rentrer le soir ou éteindre la lumière pour dormir. Je voudrais vous parler de ma joie, de la joie que j'ai eue quand j'ai appris que notre fille Mélodie et son mari Eric ont fixé eux-mêmes, pour eux-mêmes, un couvre-feu et aussi ils ont fixé un couvre-feu pour leurs enfants. Pourquoi j'étais si content? Parce que j'ai dit, bon, la révélation continue. Vous voyez, la révélation que j'avais donnée à Mélodie, elle a eu un effet durable. Ça continue sur elle et sur ses enfants. Sur sa révélation personnelle qui continue chez l'enfant. Michou et moi, on était en prière pour notre fille. Et ce que nous demandions à Dieu pour notre fille, c'est qu'elle reçoive nos paroles comme si elle recevait ces paroles de Dieu. Pas comme si c'était les nôtres, mais comme si c'était les paroles de Dieu. Et nos prières, pour que notre fille ait cette bénédiction, ces prières ont été exaucées. Gloire à Dieu. Et quand je fouille un peu plus loin en arrière dans mon passé, je suis obligé de penser et de remercier Dieu parce que tout ça, ça vient d'une prière de ma mère. Peut-être que quelques-uns sur Internet ne savent pas, mais ma mère était stérile. Ils ont été mariés 6 ans. Elle était stérile, elle n'avait pas d'enfant, impossible. Puis un jour, elle a ouvert, sa fenêtre était ouverte, et puis elle a prié à haute voix, elle a crié à Dieu. Elle a dit, mon Dieu, donne-moi un garçon, et je te promets, je te le donnerai pour qu'il soit à ton service. Puis après, elle avait honte, parce qu'elle s'est rendue compte qu'il y avait ses copines qui étaient juste en dessous de la fenêtre, elles ont tout entendu, alors elle était gênée. Mais aujourd'hui, voilà, je suis là, je suis né l'année d'après. Et je suis là et je vois ma fille qui reconnaît mes conseils comme si c'était les conseils de Dieu et puis qu'il les passe à ses enfants. Eh bien, comme c'est le cas de la révélation au chef de famille, la valeur de la révélation, elle dépend du fait que ceux qui sont dirigés acceptent eux aussi une révélation de confirmation intérieure. Il faut l'accepter. Nous avons vu aussi l'acceptation d'une révélation extraordinaire, il faut quand même que je vous dise ça, c'est le 3 décembre 1959, j'avais que 9 ans, mais je m'en souviens, c'était dans tous les journaux, vous qui avez mon âge à peu près, vous l'avez certainement vu dans les journaux. Raphaël le Gitan était à Fréjus le 1er décembre 1959 pour une tournée d'évangélisation. Et en tant qu'envoyé de Dieu, de l'église locale, il avait avec lui toute une équipe de gitans qui était avec lui, c'était lui le pasteur, et bien tout à coup, il sort de sa caravane et il dit « il faut partir de là ». Mais il n'a pas donné, il n'a pas dit « c'est ainsi dit le Seigneur », il a dit « il faut partir de là ». Et tous les gens de son église sont partis, ils ont attelé les caravanes, sur l'heure, hein, tout de suite, ils ont attelé les caravanes et ils sont partis. Et le lendemain, le 2 décembre 1959, le barrage qui était juste derrière a cédé, libérant 50 millions de mètres cubes d'eau, tuant 423 personnes, sauf ceux qui ont cru l'envoyé de Dieu. Là où ils étaient, il y avait des voies de chemin de fer, elles étaient tortillées comme des tire-bouchons. Une vague de je ne sais plus combien, de dizaines de mètres, 20 mètres, je crois, à passer, 20 mètres de boue, à passer là, ils seraient tous morts. Cette catastrophe, elle a été l'une des plus grandes catastrophes civiles françaises du XXe siècle. Vous pouvez aller voir sur Internet, tout ça, vous verrez. Il y a même des photos. Si Raphaël n'avait pas eu la vision, ben il serait mort. Dieu l'a averti. Je ne serais pas converti si Raphaël était mort, parce que c'est Raphaël qui m'a prêché quelques temps plus tard. Même pas 10 ans après, il venait dans ma ville, il prêchait et je me convertissais. Donc si Raphaël était mort, je ne serais pas converti, et ceux du sanctuaire ne seraient pas au sanctuaire, ils seraient, je ne sais pas où vous seriez. Écoutez bien les jeunes, Julie Ruiz n'existerait pas. pas plus que Benjamin, pas plus que Nathanaël, pas plus que ma Dedeux. Ils n'existeraient pas.
Pourquoi ? Parce que c'est dans la communauté que Richie et Sandrine se sont rencontrés, se sont mariés, ils ont eu ces merveilleux enfants. Mais si je ne m'étais pas converti, ils ne seraient pas là, ils n'existeraient pas. Rebecca n'existerait pas non plus. Samuel n'existerait pas. Olivier, Lydie n'existerait pas. Lucas, Élise, Timothy n'existeraient pas. Voilà. Pourquoi ils n'existeraient pas ? Parce que je n'aurais jamais rencontré Michaud. N'ayant pas rencontré Michou, nous n'aurions pas pu avoir Mélodie qui s'est mariée avec Eric et qui ont eu ses trois merveilleux enfants.
Raphaël, s'il n'avait pas parlé de sa vision, aucun de ceux de son église ne serait vivant aujourd'hui.
Enfin, maintenant peut-être qu'ils sont morts depuis parce que ça fait longtemps que c'est arrivé.
Mais ni eux, ni leurs enfants, ni leurs petits-enfants qui sont nés après n'auraient vécu.
Donc voilà, Raphaël a écouté Dieu et fidèlement il a transmis le message
qui a été cru. Alors ce témoignage de confirmation de la révélation que nous désirons tous ne s'obtient pas facilement. Il ne s'obtient pas non plus simplement sur une demande. Le Seigneur a donné la règle suivante, la foi déjà premièrement. Pour que nous ayons la capacité de recevoir les messages qu'il donne à ses serviteurs, il nous faut la foi. Cette règle, c'est un guide pour quiconque recherche la révélation personnelle, comme on doit absolument tous le faire. Cette règle, c'est celle-ci. Que tu sois rempli d'amour envers tous les frères et sœurs dans la foi. Et que la vertu hante sans cesse tes pensées. Alors ton assurance deviendra grande dans la présence de Dieu, mon frère, ma sœur, et tu exerceras ta prêtrise en étant accompagné par le Saint-Esprit qui te conduira toujours dans la vérité. Mes frères et sœurs, ce conseil s'applique à nous tous. Alors, ne traitez pas à la légère l'amour que vous avez et que vous devez manifester à l'égard de l'envoyé de Dieu de votre église locale. Et ne traitez pas à la légère l'amour que vous avez et que vous devez manifester à l'égard de vos parents. Parce qu'ils sont l'autorité déléguée au-dessus de vous. Car en entretenant de l'amour pour vos parents, en entretenant de l'amour pour les porte-paroles de Dieu, vous aurez beaucoup plus de facilité à recevoir une révélation ou un ordre qu'il veut vous donner de la part de Dieu. Quand vous faites quelque chose qu'on vous demande, la Bible dit « faites-le pour le Seigneur ». Ce principe-là, il donne la paix. Il donne la paix dans la famille, il donne la paix dans l'Église et même il donne la paix dans le travail. Mais ce n'est pas facile de ressentir ça continuellement parce que ce soit dans la famille ou dans l'autorité, donc l'autorité parentale, ou que ce soit dans l'église, les choses demandées ne sont pas toujours dans nos visions à nous. Et puis elles ne sont pas toujours donc comprises, les choses demandées. Souvent les papas, les mamans ou les serviteurs de Dieu donnent des conseils que les gens ont du mal à accepter. Et l'ennemi de votre âme ne manque pas d'essayer de vous pousser à vous offenser, à vous offusquer et à douter que l'appel du porte-parole de votre église locale vienne de Dieu. Revenons donc à notre point de départ. La révélation continue dans l'église. Le prophète la recevant pour l'église. Les responsables des diverses tâches la recevant pour accomplir leurs tâches. Le Père pour sa famille et l'individu pour lui-même. Mes frères et sœurs, je vous témoigne que ce que je vous dis là, c'est vrai. Notre Père Céleste entend vos prières. Il vous aime. Il ne va pas vous faire de reproches si vous demandez de la sagesse. Il vous aime. Il connaît votre nom. Jésus est le Christ. Il est le Fils de Dieu. Il est votre Rédempteur. Il vous aime au-delà de ce que vous pouvez vous imaginer. Et Dieu déverse ses révélations par l'Esprit sur ses enfants qui ont une attitude humble. Il parle à ses envoyés ici-bas et je prie le Seigneur de tout mon cœur afin que, en écoutant ce message, en le réécoutant, je prie qu'il déverse sur vous la révélation de confirmation qui vous permettra de trouver votre chemin dans le voyage que vous êtes en train de faire pour retourner au Père Céleste, au sein d'une famille scellée pour l'éternité. Je vous le dis au nom du Seigneur Jésus-Christ, avec la crainte de Dieu dans mon cœur, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. À bientôt, mes frères et sœurs. Dieu vous garde.